Et salut, bonsoir, salut, bonjour, je ne sais plus, c'est Fred, Indécent Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une carte blanche biblio, la dixième déjà, ça passe vite. Hein. Et sans plus attendre, puisque je ne serai pas tout seul ce soir, mais je n'aurai pas Antoine, ça va être un autre collègue, un autre ami, qui va venir m'aider pour poser plein de questions à notre invité. Donc je commence tout de suite avec le voici, le voilà, Petit Jean de Geek Powa.
Hello, salut tout le monde.
Et puis un petit coucou à toute l'équipe de Geek Powa, parce que vous êtes en live tout à l'heure à 21h, comme d'hab,
tous les lundis. Ouais. Avec les grogues d'or, là, en plus, ce soir.
En plus, les grogues d'or, ça va, c'est que du bonheur. Bah, écoute, en tout cas, bah, merci d'avoir accepté l'invite, parce que je sais que tous les deux, on est des gros fans de BD, en fait.
Oui, ouais. Bah, merci à toi de l'invitation. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'en parler et de parler BD.
Grave, avec, à fond. Avec des auteurs. Et puis, bah, le thème de la soirée, c'est pas le thème de la soirée, en fait, c'est l'invité d'aujourd'hui. C'est tout simplement donc Moby Dick, autrice et illustratrice BD. Donc, que voici, que voilà. Alors, je vais voir si j'arrive à faire comme ceci. Ce sera mieux quand même, hein. Pour mettre à l'honneur. Donc, bah, merci à nouveau hein, d'avoir accepté l'invitation pour parler, bah, comment on dit déjà, ta vie, ton œuvre.
Ouais, c'est ça. En gros.
Et ben, je te propose sans plus attendre qu'on commence le petit entretien de la journée. Donc, je laisse d'abord Petit Jean commencer comme on avait dit, hein, puisqu'on a un petit peu préparé l'émission. Enfin, on a essayé de préparer un petit peu.
Ça se prépare toujours. Mais c'est toujours sur le moment même que ça se passe le mieux.
Exactement. Mais,
en tout cas, ouais, c'est un plaisir, Moby Dick, de te rencontrer. Et voilà, et puis de pouvoir faire un entretien avec toi. On va commencer sur les questions très classiques et basiques, mais ça va permettre de se mettre un petit peu en jambes et puis d'entamer un peu, présenter ton travail. Tout simplement, ben voilà, est-ce que tu peux te présenter toi, présenter ton parcours, et nous expliquer comment tu es tombé dans la marmite de l'illustration, de l'imaginaire, de tous les thèmes que tu abordes en BD. Et puis voilà.
Eh bien, donc je suis Moby Dick, je suis autrice de bande dessinée, donc je fais le scénario et le dessin en général de mes albums, à des petites exceptions près, mais grosso modo c'est ça que j'aime faire, et la couleur aussi. Mm. Alors comment je suis tombée dans la marmite, je me demande si je suis pas née dedans en fait. J'ai pas de souvenirs d'avant, mais c'est pareil pour tous les enfants, en fait. Les enfants naissent dans une marmite de l'imaginaire, et la question c'est pourquoi il y en a qui en sortent et qui n'y retournent pas. Bon bah voilà, parce que il y a d'autres marmites en fait, et moi j'étais très bien dans celle-ci. Donc oui, comme tous les enfants, je dessinais, j'aimais les histoires, sauf que moi c'est resté une obsession. Comme beaucoup, j'ai l'impression, de mes collègues, j'aimais pas forcément l'école, donc j'écoutais pas forcément les profs et je dessinais beaucoup dans les marges. Et mine de rien, on passe vachement dans ça.
Et sur les bureaux?
Non, je respectais le mobilier, je dessinais. Ah. Oui.
J'en ai connu qui faisait ça, c'est pour ça.
Oui, non, c'est faux. J'écrivais sur les tables, mais je dessinais pas trop. Parce que j'aime bien garder mes dessins quand même. Je peux ramener la table après.
Garder la table, oui.
Et quand j'étais jeune, j'ai beaucoup hésité à. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que j'allais en faire un métier. J'avais peur que ça devienne une corvée. Vu que c'était une échappatoire quand je m'ennuyais, quand j'avais pas envie de faire ce que les gens attendaient de moi, j'avais peur que le truc s'inverse et que je ne puisse. Enfin voilà, c'était mon échappatoire et ça devenait la corvée, comment j'allais m'échapper. Mais finalement. Le bac arrivant, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était la seule chose que j'allais faire. Donc, bon. Voilà. Mais au début, donc moi, je n'ai pas toujours voulu faire de la bande dessinée. Moi, j'ai commencé, je voulais faire du cinéma d'animation.
D'accord.
Donc, j'ai fait une école de cinéma d'animation. J'ai fait la Cambre à Bruxelles, qui est donc une école d'art avec une section animation qui est très, très bien. Et vraiment, l'école est très très bien. C'est pas toi, c'est moi. c'était pas mon truc en fait. Je voulais raconter des histoires, je voulais dessiner surtout les personnages. J'ai mis beaucoup de temps à aimer faire les décors. Et en fait, en animation, c'est tellement technique qu'il faut vraiment revoir à la baisse toutes nos ambitions. Par exemple, dans Roi Ours, il y a une scène où il y a Rose, pardon, c'est mon premier album que j'ai fait en solo. Il y a une scène avec une armée d'ours qui court dans une forêt. Ça, je peux pas, on ne peut pas le faire en animation, à moins d'avoir une équipe qui anime pour moi. Et dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui anime. Alors qu'en bande dessinée, on peut être grandiloquent, on peut dessiner n'importe quel décor, n'importe quel. Juste, ça ne bouge pas, il n'y a pas de son. Par contre, les moyens, c'est juste nous et le papier, quoi. Donc il n'y a pas trop de limite à ça. Et j'ai été très frustrée de la limite en animation, surtout que j'animais pas forcément très bien. Donc faire une balle qui rebondit, au bout d'un moment, voilà. Et oui, donc j'ai changé en cours de route. Au bout de 3 ans, je me dis, non, mais en fait, il y a un truc qui ne va pas. C'était très frustrant de me dire que je ne pouvais pas réaliser mon rêve, mais j'ai mis un moment, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, je m'étais juste trompée de rêve et qu'en fait, j'allais en réaliser un autre que je n'avais pas encore. Donc j'ai fait une école de BD et là, ça a été un peu une évidence en fait. Vraiment, je m'étais trompée, quoi. Je m'étais trompée de porte. Par contre, je suis
Est-ce que
arrivée
tu...
avec zéro bagage en BD, je connaissais Astérix et Tintin et ça s'arrêtait là, quoi. Donc je suis arrivée un peu les mains dans les poches en touriste. J'avais plus de
Oui,
film que
quand même.
cinéma
Même pas un peu
d'animation.
de Spirou.
Même pas.
Mais cette école, justement, là, donc c'est la corde, hein, tu dis, hein, c'est ça, hein?
La cambre.
La corde, pardon.
Ouais.
C'est ça a quand même apporté quelque chose sur ta
Ouais,
façon
bien sûr.
d'appréhender le dessin, c'est ça?
Évidemment. Bah, de toute façon, enfin, c'était une école pas très technique. On apprenait aussi le scénario et tout ça. Et bon, le scénario d'un dessin animé ou le scénario d'un bande dessinée, c'est un peu pareil, hein.
Ouais, c'est les mêmes techniques, ouais. Le chemin de fer et tout.
Ouais. Bah non, vraiment, la structure du scénario, c'est un peu universel. Et puis le cadrage, alors en cinéma, il y a un écran, il fait une taille et on n'en bouge pas. En bande dessinée, on peut jouer avec les tailles et les formats des cases. Mais oui, j'ai un sens du cadrage. Quand je suis arrivée à Saint-Luc, mon école de BD, les profs me disaient attention, ça fait trop cinéma. J'ai jamais compris parce que c'était trop tard en fait. J'étais trop nourrie de ça, mais bon, apparemment rien. On m'a souvent dit que j'avais un cadrage un peu cinématographique, ce qui est pas mal, je pense. Mais oui, bien sûr. Puis les gens que j'ai rencontrés aussi, il y en a certains à qui j'ai encore contact. Ça reste. Enfin, vu que c'est cousin, de toute façon, c'est enrichissant, hein, de mettre un peu le nez dans d'autres trucs qui sont un peu cousins de ce qu'on aime faire. Faut pas rester centré dans une seule chose, je pense.
Et bon, bah, du coup, ce parcours, parce que la corde, ça ressemble un petit peu de ce que tu décris au Gobelin à Paris, hein, en fait. Hein,
Alors,
un
pas
peu
du
du...
tout, c'est
Pas du
l'anti-Gobelin.
tout? Ah,
Non,
d'accord. Ok.
non, pas du tout.
Je me suis
Parce qu'en fait,
planté.
c'est pas du tout une école spécialisée animation déjà.
D'accord.
Il y a une section animation et c'est beaucoup plus. C'est pas technique en fait. On apprend. Ouais. C'est beaucoup moins technique. Je sais pas comment dire,
Ouais,
mais.
plus pour structurer des récits et
Non, puis oui, puis même dans le dessin, en fait, on est beaucoup plus libre. J'ai l'impression que les gobelins, ils dirigent beaucoup le style des élèves. C'est le cas à la Cambre. La Cambre, c'est l'école où café, comment ils ont. Ceux qui font Panique au village, ça vous dit quelque chose? Non?
Non.
Panique au village, ça vous dit rien, moi. C'est pas grave.
On peut faire une recherche rapide.
Alors, j'ai la série télé, moi, c'est tout.
Ouais, c'est ça. Ils ont fait ça. Benoît Ferrand, Benoît Ferrand, non, n'importe quoi, je sais plus. C'est pas grave.
C'est Stéphane Aubier, Vincent
Voilà,
Patard.
Vincent Patard.
Ouais. De 2002, ouais.
D'accord. Et du coup, tu es allé au bout du cursus,
Non, j'ai pas eu mon diplôme parce que en fait c'était en 3 ans. Et à la troisième année, bah, comme en cours d'année, j'ai compris que ça menait à rien. J'ai un peu baissé les bras. J'ai bâclé mon film de fin d'année. Et surtout, j'ai fait une connerie. Moi, je pensais qu'être honnête, c'était bien. En fait, des fois, non. Des fois, il faut mentir. Et j'ai dit à mon jury que j'allais pas continuer. J'ai présenté mon film un peu bâclé, mais bon, j'avais un truc à montrer quand même. Et oui, je leur ai dit que j'allais partir faire autre chose, et du coup, ils sont pas mis à l'encourager. Ils ont dit, ah bah tiens, tu voulais ton diplôme, bah non, tu l'auras pas. T'avais qu'à faire l'anime après. Genre, ça sert à rien qu'on te le donne. Bon, bah merci.
Et donc après, donc t'as embrayé sur tes codes de bande dessinée. Ouais. Ça, c'est un peu la question. Enfin, ça, c'est personnel. Je suis un petit peu toujours posé. Qu'est-ce qu'on y apprend exactement, à part des techniques pour dessiner, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a de l'histoire de l'art, des choses comme ça?
Oui. Alors, il y a des cours théoriques, mais clairement, c'est pas pour ça qu'on y va. Hein.
Bien sûr.
Il y avait donc oui, un cours de sémiologie, cours de littérature, cours de philo, histoire de l'art, et comme ça. Mais en vrai, on y va pour les cours d'atelier. Et les cours d'atelier, en fait, en gros, les profs nous donnaient une contrainte ou un thème. Et on doit faire une histoire courte avec... Donc la contrainte, ça allait être soit ça pouvait être plusieurs choses. Et le thème, parfois, c'était un article de journal. Juste, on vous donne un article de journal et fait une BD de 3 pages. Je te débrouille. La technique, papier découpé, gouache, carte à gratter... des trucs vraiment des trucs qu'on n'aurait jamais essayé par nous-mêmes. Parce qu'en fait, on arrive là, on est tous très différents. Il y en a qui ont toujours fait de la BD, qui ont développé des tics ou qui vont. Il y en a pas mal qui arrivent, qui ont copié des mangas, voilà.
Beaucoup, ouais.
On a tous un peu nos pantoufles. Et les profs, ils viennent nous sortir de nos pantoufles et nous faire essayer des trucs qu'on n'aurait jamais essayé tout seul. Que ce soit au niveau technique ou au niveau du thème ou voilà. Et oui, donc en fait, on fait des petites histoires qu'on n'aurait jamais fait tout seul, avec les profs derrière qui guident, qui disent ouais, là on comprend pas bien, enfin des petits conseils techniques quoi, de comment présenter la BD pour qu'elle soit lisible, qu'elle soit agréable à lire, qu'elle soit. Voilà. C'est juste nous pousser hors de la zone de confort. Par contre, dès qu'on ressort de l'école, j'ai l'impression que direct, on retourne dans notre zone de confort, sauf qu'elle est vachement plus large qu'avant. Mmh.
Et donc, ouais, parce qu'elle s'enrichit de ce que tu peux voir à côté, plus les nouvelles techniques que tu as pu apprendre,
ouais.
Etc.
Ah ouais, il y a des techniques. J'aime bien, maintenant, j'aime bien faire du brou de noix et de l'eau de Javel. Donc, le brou de noix, c'est une encre que j'utilise comme un lavis, et l'eau de Javel, ça efface ce truc. Mmh. Et donc, j'aime bien faire apparaître les lumières comme ça. Ça, c'est un truc. Je l'ai appris en cours de modèle vivant. Jamais j'aurais pensé à faire ça. Les gens normaux ne font pas ça.
D'accord.
Ouais, première fois que j'entends parler de ça, effectivement.
Ouais, pareil.
C'est surprenant.
Et au niveau des techniques, avant de parler de ce que tu as réalisé et ce qui est sorti, tu travailles directement sur papier ou informatique, les deux?
Alors, je travaille sur papier d'abord. En fait, je mélange un peu. Je peux vous montrer des planches si vous voulez.
Carrément.
Allons-y.
Oui.
Alors. Donc, ça, c'est une des premières pages de Roi Ours.
Oui.
Le brou de noix, c'est à cette couleur-là. Et.
D'accord.
Ça va faire le blanc derrière, voilà, les petites lumières blanches. Donc c'est le noir, c'est de l'encre de Chine. Mm-hmm. Avec une brosse à dents, je viens de faire des petits effets comme ça. Je mélange avec, je reviens un petit peu avec du crayon de couleur, ce genre de choses. Et si d'accord. Je monte là, mince, je crois que je m'en suis servi pour faire ma. Attends. J'ai une structure un peu branlante pour tenir. L'iPad qui me filme, c'est bon. Ouais.
C'est un peu cet effet-là qu'on voit, justement, le blanc là qu'on voit sur le culte de Mars, quoi.
Oui, oui, oui. Voilà, la page finale, elle est comme ça.
Ok.
Voilà, donc je viens, en fait, je le scanne, et sur Photoshop, en fait, je change la teinte de chaque zone pour... voilà, ça c'était pas vert, c'était brun. Ben, je sélectionne et puis je bouge le curseur jusqu'à arriver au vert et je fais ça pour tout.
D'accord, donc tu pars d'une base croquis, couleur que tu fais toi, en fait, tu scannes et tu termines sur Photoshop quoi.
Ouais, donc je crayonne d'abord au crayon, je fais mon crayonné comme tout le monde un peu. Et ouais, ensuite, je fais l'encre. Et donc, en fait, sur le papier, je fais tout ce qui est texture, lumière. Et ensuite, je fais la couleur. J'ai du mal à penser aux deux en même temps. Je préfère vraiment me focus sur l'un, puis me focus sur l'autre.
J'ai une question aussi, pareil, parce que ça m'a. J'avoue que ça m'a étonné, parce que c'est pas court, enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans la BD. C'est que tu fais aussi les couleurs de tes propres BD, donc tu fais aussi l'histoire, les trois.
Ouais,
C'est
je
quelque
fais
chose que
tout
tu as voulu dès le début, ou ça s'est fait avec le temps? Comment c'est venu?
ça. Ça m'a. J'aime pas déléguer, j'aime pas partager, j'aime bien tout contrôler. Et c'est un peu pour ça aussi que l'animation, ça me plaisait pas. C'est parce que l'animation,
En
ça
équipe.
se fait en équipe. Et faire un truc tout seul, enfin, voilà, faut vraiment voir à la baisse toutes les ambitions. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout en BD. Je peux faire des trucs un peu ambitieux et je peux faire l'histoire. Et ouais, j'ai du mal à lâcher prise. Et c'était intéressant parce que du coup, après donc. On en parlera, j'imagine, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec un scénariste et un coloriste, et c'était pas facile parce que voilà, fallait laisser faire les autres, fallait leur laisser de la place, quoi.
D'accord. Et oui, donc c'est des techniques que tu as développées toutes seules, enfin que tu avais apprises à l'école de la Cambre, du coup, ou
Voilà, ah ouais, en fait, non, c'était à Saint-Luc, enfin bref, oui, en gros. C'était un cours de modèle vivant, c'était une prof qui aimait bien vraiment nous laisser nous faire jouer avec des techniques sorties de je sais pas où. Enfin voilà, elle aimait bien les trucs un peu bizarres. Et en fait, oui, ça m'a bien plu, mais en fait, en gros, on allait dessiner le modèle qu'il posait. On allait faire sa silhouette, par exemple, au brou de noix, au pinceau. Et ensuite, elle nous donnait un petit coton-tige imbibé d'eau de Javel et on faisait apparaître la lumière. Du coup, c'est intéressant de. Parce que normalement, quand on dessine, on ajoute du noir sur du blanc. Et là, c'est intéressant de rajouter de la lumière sur quelque chose de plus foncé. On pense différemment, en fait. Dans
D'accord.
l'objectif, c'était pour ça, pour nous faire penser différemment, quoi.
D'accord. Puis c'est quand même très organique comme méthode et comme technique, enfin comme matière.
Ouais.
C'est
C'est très plaisant de voir la lumière apparaître, parce que ça n'arrive pas tout de suite. C'est une réaction chimique, donc il y a vraiment une seconde où on voit le truc s'éclairer. C'est assez magique, ouais.
faudrait que tu fasses du dessin en direct, en live, pour qu'on voit un peu les processus. Je pense que ce serait assez fabuleux à voir comme
Alors sur mon
processus.
Instagram, j'ai montré un petit peu des petits trucs. Mais j'aime
Je
bien,
vais
ouais,
retrouver.
j'aime bien me salir. J'aime bien les trucs. J'aime bien aussi. J'avais fait des stories pour montrer comment j'aime bien fabriquer mes outils. On se les fait avec des roseaux taillés. Et donc j'ai fait une story pour montrer comment je taille, comment je fais le petit réservoir, je fais un petit réservoir en canette de bière, bref.
D'accord, donc on continue sur le très organique. Donc tu peux nous en parler un peu plus, les roseaux taillés avec lesquels tu dessines?
Ouais,
Parce
bien
que
sûr.
c'est pas commun non plus.
Non, c'est pas commun, ouais. Mais
D'habitude, on parle plume, pinceau,
ouais. Moi j'ai mis le
crayon.
lien vers l'Instagram de Moby Dick. Hein. Et donc bon, c'est vrai que j'ai même pas dit bonjour à tout le monde dans le chat, donc bonjour à tous, hein. Merci d'être là. Et merci Thomas pour m'avoir dit que la bannière était plus à jour. Voilà. Ok, ouais, donc les plumes.
Alors, ouais, alors en gros, le roseau taillé, bah, c'est en fait c'est un roseau comme ça.
Ah ouais.
Alors, je m'amuse à le décorer parce que voilà, je peux pas m'en empêcher, mais je le taille comme ça pour faire une pointe. Ensuite, je fais
Petite coupée.
une cassure pour que le lait.
Ouais.
Je fais un trou ici. Et là, ça, c'est une languette en métal. Ça doit être une canette de bière. Je la coince dedans. Et on voit pas très bien, mais il y a un petit jour entre la canette et le bois. Et du coup, l'encre va se coincer là-dedans. Et ça fait un petit réservoir. C'est vraiment pas mal. Et alors, pour la petite histoire, je me suis mise à dessiner avec ça. Parce que un reproche qu'on m'a toujours fait, que les profs m'ont toujours fait, c'est que je suis trop propre. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que ben, si on compare un dessin technique avec un vrai dessin avec une patte et tout, bah, le plus intéressant c'est le dessin qui a des accidents et des taches. Et donc j'étais trop propre et ça manquait de ce côté organique en fait. N'était pas là, quoi. J'étais trop en train de nier, faire mes tirs rétro et tout. Et c'est un prof qui m'a dit, tu devrais dessiner avec des bambous. Donc, j'ai essayé le bambou. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivée au roseau parce que mon beau-père joue du hautbois et que les hautbois ont des hanches en roseau et que du coup, il me file son stock où il y a un petit défaut. Ouais, ça vient de loin, tout ça. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Hein. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas inventer d'un coup. J'ai vraiment fait, au fur et à mesure, inventer ma recette. Et, voilà. Et donc, le souci, c'est que, au fur et à mesure, je suis devenue très propre aussi avec le roseau. Mais bon.
Donc, ça peut marcher aussi avec ce genre de truc, quoi.
Ouais. Alors, taille non plus, oui. Mais là, mais pour le coup, le truc en métal, il est...
Oui.
Ouais.
Ouais, mais c'est le même genre de truc, quoi.
Mais ouais. Ouais. Oui,
bon, c'est pour de la calligraphie, celui-là.
C'est ça. Ouais. N'importe quel truc. En fait, on peut vraiment dessiner avec n'importe quoi qui retient un peu l'encre. Hein. Un autre truc que j'ai découvert, c'est le colle à peine. Donc ça, c'est juste un bâton, un bout de scotch et un bout de canette de bière plié en deux. Et donc, comme il y a un jour au milieu, comme ça, ben, l'encre vient se foutre dedans.
D'accord.
Ça, par contre, ça fait des gros traits. Donc, il faut faire des... Je fais que sur les élus, sinon...
Et donc, quand en festival, quand tu dédicaces des albums, tu dépotes ou... D'accord.
Oui. Parce que oh. Ça mettrait des plombes à sécher et ce serait... Oui, ce serait salissant. Je me retrouve avec de l'encre un peu partout quand même.
D'accord. Non, mais c'est vraiment, ouais, comme je disais, ouais, c'est très vivant, c'est très... très, très organique et ouais, c'est fabuleux d'utiliser toutes ces matières naturelles et puis ça, je pense que ça se ressent... Alors, ça se ressent dans le dessin, mais ça se ressent, ouais. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais dans les thèmes des BD que tu écris aussi.
Ah, si, moi je rêverais de faire mon encre aussi. Mais je ne sais pas comment on fait, mais j'aimerais bien faire ça.
Je suis sûr qu'il y a des recettes.
Ouais, il y en a.
Ça existe, mais c'est. Alors, le pire, c'est pour la partie teinture, pour fabriquer les trucs, c'est que ça pue surtout.
Bah, ça dépend quoi. Hein. Mais oui, avec des herbes, avec. Il y a plein de plantes qui produisent de la couleur. Mais oui,
les petits animaux.
Ah oui, non.
Les cochenilles, pour le rouge.
Oui, les cochenilles, ouais. Oui.
Pouvez. Alors, on demande en commentaire, est-ce que ça marche aussi avec les canettes de soda? Parce que tu nous parles de canettes de bière, mais...
Oui. Là, c'était une canette de Jupiler, mais j'en ai un autre vert, c'était du Fanta, et il marche aussi très bien.
D'accord.
Merci,
Paul.
Merci Thomas.
On va commencer à parler un petit peu de ton travail, de ce qui est sorti en tout cas. Alors, dans l'ordre, la première BD, première planche que tu as sortie, c'était laquelle exactement? Bon, nous on a Roi Ours, le culte de Mars, ouais. On sait que tu as écrit une histoire courte dans le Marsupilami.
C'est Roi Ours.
Roi Ours, ok.
Ouais, c'est Roi Ours que j'ai fait en tout premier. Roi Ours, techniquement, je l'ai commencé à l'école, même si je ne le savais pas. Pour le diplôme de fin d'études, il fallait faire une histoire courte de 10 pages sur un thème libre. Et j'ai fait 10 pages. Techniquement, c'est le début de Roi Ours. C'est juste que c'était une histoire courte comme ça. Mais c'était l'histoire d'une indienne... offerte en sacrifice, et l'ours venait la délivrer, et c'était exactement ça. J'avais pas du tout prévu d'en faire quoi que ce soit, c'était juste pour m'amuser et avoir mon diplôme accessoirement. Mais elle a beaucoup plu, le jury a vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très très encourageant, et plein de gens me disaient « mais qu'est-ce qui se passe après, tu vas faire la suite ?» Moi, je n'ai pas spécialement envie de faire la suite, mais bon... À un moment, j'ai eu l'idée de la suite, en fait. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais s'il se passait ça, ce serait affreux. Et en fait, le truc s'est déroulé c'est juste en me disant, et si. Et le truc s'est déroulé jusqu'à la fin. Et du coup, je l'ai présenté. Donc, j'ai refait le début, hein, parce que j'avais quand même évolué depuis mes études. Mais oui, voilà, en gros, j'ai fait ça. Et alors, bon, ce qui est rigolo, c'est que du coup, j'ai fait cet album. Et maintenant, les gens qui le lisent me disent « Ah, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu vas faire la suite ?» Non.
Non. Pour ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire les deux déjà, ça n'appelle pas vraiment de suite, en fait.
Ah, ouais, si, il y a des gens... En fait, j'aime bien les fins... C'est quand même une fin ouverte.
Bah oui.
Je ferme un peu toutes les portes, sauf une. Mmh. Et voilà. Les gens, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Une porte ouverte.
Mais en fait, si ça plaît une suite, ce serait vraiment une suite commerciale, je pense. Mais là, non, il n'y a plus. Enfin, il faut effectivement. Mais
j'aurais une épiphanie fulgurante avec un scénario génial, je le ferais, mais bon, c'est pas arrivé.
Ben, on peut peut-être te pitcher, si tu peux présenter le titre en question et puis rapidement l'histoire.
Voilà, donc juste la cover et puis une page.
Ah non, alors voilà. Je déteste ça.
D'accord.
Non, mais Roi Ours,
c'est. J'ai mis beaucoup de temps à la raconter, à la dessiner, donc maintenant ça suffit, c'est à vous.
Ouais, bah, Roi Ours, c'est l'histoire d'une jeune fille. Alors après, où est-ce que ça se passe ? Voilà ce que j'allais dire. Parce que ça fait penser aux tribus animistes, amérindiennes et autres.
J'ai mélangé.
Mais pas vraiment ça. Il y a des petits accents un peu maya, aztèque, des choses comme ça. Mais donc, c'est une jeune fille qui est offerte en sacrifice parce que, bah, voilà, à un moment donné, il faut sacrifier une personne au dieu de la nature pour les calmer et faire en sorte que la tribu puisse perdurer. Donc, c'est une jeune femme qui est sacrifiée et elle est récupérée donc, par l'esprit ours, donc l'ours blanc. Hein. C'est ça. Je vais essayer vite de montrer ça. Et bah, elle est offerte en mariage, carrément.
Oui, voilà. Elle pensait être mangée, et finalement, en fait, elle est épargnée et ça l'arrange moyen, parce qu'au moins mourir, c'était. Elle n'avait rien à faire. Quoi.
Exactement. Donc, un petit peu vite fait, voilà.
Donc elle se retrouve avec des responsabilités. Bah
avec des responsabilités, parce qu'elle devient la femme du roi ours.
En fait, elle devient la reine. Pardon.
Il y a des accents de la belle et la bête, hein, on peut le dire clairement. Hein. Et on se retrouve avec la cour, avec tous les esprits totems des animaux, en fait. Hein, et le fameux esprit crocodile, qui aura son importance. Et forcément, bah, on y voit toute la cruauté humaine, et on ne va pas raconter trop la suite de l'histoire. Ce serait un petit peu dommage, hein, parce que justement, c'est un one-shot, donc avec un redéveloppement, une vraie fin ouverte, effectivement. Ça parle de vengeance aussi, de but dans la vie, de continuation, d'acceptation de l'humain et de la nature. Ouais, un petit peu sa place. Je pense que voilà, je pense que j'ai dû faire le pitch, je pense.
Mais très bien, je n'aurais pas raconté mieux que ça.
Bon. Donc bah, c'est vrai que j'ai pas dit, donc c'est sorti en 2015 aux éditions Delcourt.
Oui. Est-ce que vous aviez vu qu'il y avait un jeu avec la couverture ? Un genre de...
Ah non, je ne l'avais pas vu, mais je viens de le voir un instant, effectivement.
Ah ouais.
Ah, c'est fabuleux. Très beau.
Je dirais rien, mais si vous la voyez, tant mieux.
Est-ce qu'on donne la réponse à nos
spectateurs ? Oui, parce que moi, je t'avoue que là...
Regarde bien. C'est les branches du premier plan.
Je suis en train de regarder... Non, vas-y, parce que moi, je t'avoue que là... Ah, si, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Donc, l'ours. L'ours qui est là.
Très bon.
Ici. Ça, c'est génial. Il y en a qui le voient tout de suite, il y en a qui le voient jamais.
Merde. Ah ben non, mais si tu nous avais pas dit que... Enfin, moi, si tu m'avais pas dit qu'il y avait quelque chose à voir, j'aurais peut-être un jour...
Oui, maintenant, c'est bon. Maintenant, ça va, là, je le verrai tout le temps. Mais je t'avoue que c'est vrai qu'avant...
On ne peut pas le dévoir, une fois qu'on l'a vu.
Ah oui, c'est clair. C'est compliqué, maintenant.
Et donc ce voilà titre, comment tu as réussi à le faire publier ? Avec qui ? Quelles rencontres ont permis d'arriver jusqu'aux portes de Delcourt les convaincre de le publier ?
Bah, ça a commencé à mon jury de fin d'études. Donc les membres du jury, c'était des intervenants extérieurs. Il y avait un éditeur, un scénariste, un journaliste, je ne sais plus trop. Et en fait, de fil en aiguille, ça m'a fait rencontrer mon futur éditeur. En gros voilà. Mon éditeur n'était pas au jury, mais c'est via les gens qui étaient au jury que j'ai pu rencontrer mon éditeur et que.
Ah, bouche à oreille.
Ouais. Oui.
Alors je me permets de mettre juste une petite question parce que juste pour dire à Jean-Marie de toute façon elle va venir cette question là, t'inquiète pas sur les références, les inspirations et autres. Donc sur Roi Ours, le parcours éditorial, ça t'est venu comment cette histoire justement? Ces thèmes qui te sont arrivés.
Comme je disais, à Saint-Luc, on avait toujours des contraintes de scénario. Et là, c'était la première fois, enfin une des rares fois où c'était un thème libre, technique libre, tout était libre, nombre de pages libre, tout était libre.
D'accord.
Et bien, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de faire une BD où je ne dessinais que ce que je savais dessiner de mieux. Et j'aime bien dessiner les animaux. Donc, je suis partie là-dessus. J'aime pas trop les décors. La perspective, c'était un peu mon cauchemar. Donc, la forêt, c'est très bien. Les humains, je dessine mieux les filles que les garçons. Donc, hop, une héroïne. J'aime bien les Aztèques, donc je me suis inspirée de ça aussi.
Pour la partie
J'ai
sacrifice, ouais.
tout mélangé, j'ai secoué comme ça, j'ai regardé un petit peu un truc qui pouvait coller, et j'ai vraiment c'était un prétexte pour avoir la meilleure note possible de mon jury. Et puis bon, après je me suis attachée au truc et je l'ai fait sérieusement, hein, mais là-bas c'était ça. Ouais.
La partie du coup de le comme tu disais, c'était 3 pages au début, et comme tu dis, cette épiphanie hein, qui t'est arrivée, qui fait que ah bah c'est bon, maintenant j'ai mon histoire, ça c'est venu comment? C'est toujours un peu intéressant de
Ouais,
savoir quoi.
le problème c'est que là c'est gros spoil si je le dis. Parce que c'est
D'accord.
un moment
Oui.
qui arrive au milieu de l'album.
Oui.
Et ça m'est arrivé, mais vraiment, enfin, quelqu'un a fait un commentaire avec enfin, à propos d'un ours, et ça avait même pas, c'était même pas en rapport avec ma BD ou quoi. Et par association d'idées, ça m'arrive souvent, au milieu d'une discussion, quelqu'un dit un truc. Et soudain, j'écoute plus du tout parce que ça m'a fait penser à un truc et je suis en train de penser au truc en question. Et là, en fait, ça a fait une réaction en chaîne. Mais enfin, c'est impossible à reproduire, c'est impossible à anticiper. Juste, c'est arrivé et il a fallu juste saisir le truc au moment où ça arrive, quoi. Je n'aurais pas donné de conseils là-dessus.
Je pense pas qu'il y ait de recette miracle, hein, de toute façon, hein, c'est des choses de
Y a des gens qui ont
l'inspiration.
des trucs, hein, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas.
D'accord. Et c'est rétrospectivement, tu penses que ça s'est nourri de choses que tu avais déjà vues, donc bon, à part cette histoire avec l'ours, hein, bien sûr. La culture maya, tu avais vu des films, des choses comme ça qui.
Alors la culture aztèque, bah, ma maman
Oui,
elle est
Aztèque.
mexicaine
Ouais.
et donc depuis que je suis petite, il y a des objets aztèques chez moi. Alors j'ai toujours eu un calendrier derrière. Là il y a un calendrier aztèque qui me regarde. Il y a des, ouais, j'ai des bibelots, des statues, des trucs comme ça. J'avais des bouquins illustrés qui racontaient la vie des Aztèques. En fait, ça a fait partie de mon enfance. Et je me souviens, il y a un moment où j'ai été surprise de me rendre compte que les autres enfants n'avaient pas ça. C'est pas courant d'avoir des bouquins illustrés sur la vie des Aztèques. J'avais un super bouquin que j'adorais, qui racontait tout, mais en passant par les sacrifices humains pour faire lever le soleil et tout. Ça me fascinait. Et du coup, ouais, ça commence par un sacrifice humain, et dans Culture de Mars aussi, première page, il y a un sacrifice humain.
Oui,
Oui.
on trouve
Ouais.
une imagerie très forte, qui est limite traumatisante. Enfin, je ne
Ouais.
sais pas si parmi les références auxquelles tu penses, il y a celui de la vie privée des hommes, au temps des
Non.
Aztèques, des Mayas,
Ah
des
oui!
Incas.
Je crois que c'est ça. Je
Oui,
crois
un
que tu l'as.
livre rouge avec des illustrations très réalistes et où, en fait, ben, j'en avais un peu parlé parce que je
C'est
sais que
celui-là.
Hub s'en inspire beaucoup dans ses BD aussi, là. Et voilà, il y a la violence, il y a le sang, le sacrifice, la nudité, c'est des livres jeunesse en fait, mais rien n'est épargné, rien n'est aseptisé dedans. Et,
Et magnifique. Oui, c'est super.
je pense que ceux qui l'ont feuilleté dans leur jeunesse ont été vraiment très très marqués par ces ouvrages-là. Alors moi, c'était Cité d'or. Hein.
Bien vu.
Oui,
Oui.
parce qu'il y
Quand
avait le
même
petit
temps.
documentaire à la fin.
Oui, il mettait ça en
À la
scène aussi.
fin de chaque épisode, il y avait un petit documentaire, 5-6 minutes, et qui présentait les différentes cultures qui étaient croisées par les personnages du dessin
Ouais.
animé. Alors, il y avait beaucoup de choses sur les Incas, forcément, mais il y en avait aussi sur les Aztèques, les Mayas, etc. Donc, c'est passionnant. Donc, ça, c'était pour Roi Ours. Ensuite.
Ouais, sinon, il y a
Ouais.
une autre influence assez évidente. Je suis surprise qu'elle n'ait pas été dite, c'est Princesse Mononoké.
C'est vrai.
Les deux
C'est vrai
animaux.
que c'est un des thèmes forts, ouais, de ta BD, c'est ben, le rapport de l'homme à la nature, aux animaux, puis
Ouais.
côté ouais, lutte de l'un contre l'autre.
Non, puis bah, enfin, vraiment au niveau juste image marquante, la louve géante, la déesse louve géante, en fait, c'est clairement, ouais, c'est une très grosse influence. Et aussi à la fin, la foule de sangliers qui va attaquer les humains. Je l'ai transposé avec des ours.
Ouais, c'est là clairement, effectivement, on sent bien le Mononoke, quoi. Hein. Ouais, puis il y a aussi cette personne face à l'immensité, quoi. Et il y a ce thème aussi, quand même, de la vengeance qui est revenue, hein, de la cruauté. Hein.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est quelque chose que ça, tu as en toi, qui doit ressortir, ou comment ça fonctionne, je ne sais pas.
Je suis très peu violente.
D'accord.
Mais un bon moteur pour... Parce que les personnages ont besoin d'un moteur pour les faire avancer, et l'envie de vengeance, c'est un truc qui...
C'est assez universel.
Ouais, c'est une émotion qu'on comprend facilement, quoi.
Et puis pourtant, c'est vrai, il y a...
Ouais, moi j'aime beaucoup le personnage de la gorille.
Ah oui.
Ouais, qui est la figure maternelle et qui essaie de tempérer, quoi. Hein, quand même,
la sagesse.
Hein. Ouais.
Ouais, on a deux caractères très différents. L'une qui dit oui, non, c'est inutile. Et l'autre qui sait que oui, c'est inutile, mais c'est une envie irrépressible et qu'elle sait qu'elle va.
C'est comme ça.
Qu'il faut qu'elle le fasse. Et... Bon, là, on va un peu trop loin dans le récit.
Ouais.
En tout cas, c'est une super BD, donc on vous conseille régulièrement. Je sais que ça fait pas. Enfin, moi, je l'ai découvert parce que dans la librairie BD où je vais, ça faisait partie de leur coup de cœur.
Ah, cool.
Clairement. Et c'était il y a déjà 2 ans. Donc, pour une BD de 2015, ils continuent à en parler régulièrement.
Ah, c'est trop bien.
Donc, et c'était au moment où le culte de Mars est sorti. Donc, alors après, je sais pas. Comment ça s'intercale? Est-ce qu'il y a le Marsupilami? Je crois qu'il vient après le culte de Mars,
ouais,
ou avant?
Marsupilami, hein. C'est arrivé entre les deux.
Ouais, et comment tu as contacté? C'est comment tu es arrivé là-dessus? Ah ouais, je me permets peut-être de présenter, en fait. C'est deux BD chez Dupuis, donc Marsupilami. Donc, c'est des collectifs où chaque auteur, autrice fait un petit récit. Ouais, c'est en 2 tomes. Donc, il y a plein de petites histoires qui tournent autour du Marsupilami avec un traitement libre. Et donc, ton récit clôture la deuxième BD, et c'est une histoire sans parole, et j'ai relu récemment, et je me suis dit, ouais, non, c'est pas bon pour le moral, des récits comme ça, c'est crépusculaire, c'est... Pff, voilà. C'est Marsupilami, pourtant.
Ouais, le récit n'est pas de moi. Moi, j'ai fait que les dessins sur celui-là.
D'accord.
C'est Joris Chamblin qui fait le scénario. Et c'est lui qui m'a contacté. En fait, Dupuis lui a demandé de participer. Donc c'est une histoire courte de 8 pages, si je ne me trompe pas. Et en fait, il avait carte blanche pour le dessinateur. Et il avait aimé ce que j'avais fait pour Roi Ours. Il avait aimé ma façon de dessiner les animaux et la forêt. Et il avait envie de me laisser 8 pages où je ne ferais que ça. Et donc, il n'y a même pas de bulle pour cacher le dessin. Et tout, c'est complètement muet. C'est que le marsupilami est de la nature, et je me suis éclatée.
Et ben oui, éclatée, oui. Ben, ça...
Oui, ouais, oui, bon. C'est pas parce que c'est triste à lire que c'est pas fun à faire.
Mais ouais, très beau récit, ouais. C'est... Mais j'ai trouvé même presque un... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de trait noir pour les personnages. J'ai trouvé le style plus proche du réalisme, en fait.
Ah oui.
Que le Roi Ours, peut-être. Ou le Roi Ours, on a encore un côté un peu, bah, comme tu disais, animation.
Ah ouais.
Là, on est plus sur du...
Pourtant, j'ai utilisé les mêmes outils. Hein. Il y a un trait noir autour des personnages.
D'accord.
Donc pour le Marsupilami, donc moi, c'est clairement, hein, ça fait partie de ce que je n'ai pas encore lu, hein, ma grande honte. Tout lire. Hein. Donc tu dis, ça s'est fait sur recommandation, on est venu te chercher pour
oui.
Ça.
Oui, ben, Joris, en fait, je l'ai rencontré en festival quand je faisais une tournée dédicace pour Roi Ours. J'ai rencontré plein de gens, dont Joris Chamblin. Et oui, il avait bien aimé mon travail. Et donc oui, il a pensé à moi au moment où on lui a proposé ça, quoi.
Et donc du coup, la question, c'est la collaboration, comment ça s'est passé? Comme tu aimes bien tout maîtriser.
Oui, oui, là en l'occurrence, c'était que 8 pages. Donc ça s'est bien passé.
D'accord.
Après, voilà. Mais c'est... Sur le scénario, j'aime quand même faire honneur à ce que la personne a voulu raconter. Donc je me mets au service d'eux. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je lis le script. Alors, je n'obéis pas à tout, hein, parce que ça dépend des scénaristes, mais il y en a qui sont vraiment très précis, qui donnent des notions de cadrage, de plan, de taille de la case. Et bon, des fois, j'ai pas envie, et des fois, j'ai une idée que je préfère, et donc je le fais. Et en général, voilà, un scénario, c'est souvent une proposition. Si c'est un ordre, il faut apprendre à dessiner tout seul, hein, faut arrêter d'embêter les gens. Mais oui, donc voilà, donc j'ai apporté ce que j'avais apporté, mais en essayant de servir ce que lui, l'émotion que lui essayait de transcrire dans. Mais oui, sur 8 pages, ça s'est très bien passé.
Okay.
Donc
même
pour
pas
ceux
une
qui
petite
comme
envie.
ouais,
Vas-y,
pour,
vas-y, je t'en prie.
ouais pour ceux qui comme moi n'ont pas lu, est-ce que vous pouvez me bah, toi Petit Jean, du coup, est-ce que tu peux me parler rapidement hein, sans me déflorer le sujet, mais
Alors en fait, ça reprend. Alors faut savoir qu'il y a au moins deux marsupilami hein, dans les récits de Spirou Fantasio. Donc le marsupilami qui accompagne Spirou et Fantasio et la famille de marsupilami qui vit dans la jungle en Palombie, qui a fait l'objet d'un album Le nid du marsupilami dessiné par Franquin hein, sous forme de documentaire qui est absolument fabuleux. Et donc ce récit-là raconte la vie passé, enfin la vie à un âge avancé, donc des parents du marsupilami, de la marsupilami. On voit que les enfants sont partis, ne sont plus là. Et on voit que ben, le marsupilami est un peu vieillissant et qu'il n'a plus toute l'habileté, l'agilité, l'agilité des années d'avant, de l'âge d'or. Et que ça devient compliqué, qu'il le sent, qu'il le sait, que ça va être compliqué pour sa survie et la marsupilami également. Et il part pour une dernière balade, quoi, dans la jungle, on va dire.
Ok.
C'est.
Un beau récit, quoi.
Un peu dur.
Mais oui, on est parti sur un marsupilami, genre de l'espèce des marsupilami, mais c'est pas le marsupilami.
Ouais. Mais effectivement, en fait, c'est amusant parce que tu redessines des flashbacks, des passages qu'on voit dans la BD de Franquin. Et comme je disais, avec ton style un peu réaliste, un peu naturaliste, c'est amusant de les voir transposer du côté Franquin à cet aspect représentation plus sérieuse. Et la transposition est amusante, quoi.
Bah c'était fun à faire. C'était pas évident de partir d'un dessin vraiment cartoon et d'en faire quelque chose d'un peu plus réaliste. C'était pas facile parce que Marsupilami de l'original, faut pas trop réfléchir en fait quand on voit parce que il ressemble à rien. Puis enfin, il a une très grosse truffe, il a des gros yeux. On peut pas faire ça. Donc moi, j'ai pris parti de faire du poil blanc avec un petit œil noir au milieu. Mais oui, il a fallu trouver des solutions. Franck Huppé, un film incroyable aussi.
Je pensais à lui particulièrement, mais c'est un, ouais, un dessinateur enfin, animalier
Ah, lui, c'est un autre
qui est
niveau.
fabuleux. Mais oui, pareil, comme toi, il a fait une représentation réaliste du marsupilami,
D'ailleurs,
anatomiquement.
Franck Huppé, grosse influence aussi hein, pour Rawls.
Ouais.
Sa manière de dessiner les animaux, j'avais ses albums pas loin sur ma table.
D'accord. Le côté zoo, j'imagine, plutôt que broussailles. Je suis fan de ces auteurs.
Eh ben écoute, on peut aller gentiment du côté donc, du culte de Mars. Donc, toujours ce Delcourt, toujours un one shot. Donc que voici, que voilà. Donc là, on est plus dans du post-apo, hein, clairement. Enfin, des jolis croquis, donc je vous montre rapidement, vite fait, les croquis que voici, que voilà, de l'héroïne. Alors, celui-ci, il est sorti. J'essaie juste de retrouver la date de sortie parce que c'est mieux. Je crois que c'est, je sais plus si c'est 2019 ou 2020, j'avoue.
J'ai 2020 pour Culte de Mars.
Février 2020, donc juste avant l'apocalypse Covid, donc c'est bien ça.
Non, il devait sortir en mars 2020.
On.
Il s'est retrouvé coincé chez l'imprimeur. Il était imprimé, mais les imprimeurs sont rentrés chez eux.
Oui.
Et donc, il a été décalé. Je crois que du coup, au final, il est sorti en juillet.
Ouais. Ok. Donc c'était la période où je pouvais enfin sortir et du coup c'est là où j'ai le plus acheté de BD de toute ma vie, comme beaucoup. Donc c'est bah, justement c'est là où il me parlait justement de ton travail. Hein. Donc j'étais d'abord découvert par le culte de Mars avant d'aller voir
Non,
Rawls.
c'est vrai. Ok.
Voilà.
Ah oui, ok.
Donc c'est moi qui vais faire le pitch. Hein, si... Enfin à moins que tu veuilles le faire, petit Jean.
Non, tu fais très bien les pitchs, vas-y.
Ah ouais, ok.
Mais attendez-vous encore à une histoire très joyeuse avec le culte de Mars.
Ouais, ouais. Alors, c'est du post-apocalyptique, mais pas. C'est pas Mad Max non plus, quoi. Hein, y a pas des hordes de sauvages avec des motos dans tous les sens, pas du tout. Donc, on est plus sur une thématique où l'humain, ceux qui avaient les moyens, sont partis vers Mars. Voilà, ils ont abandonné les autres à leur triste sort après la pollution, le réchauffement climatique, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, et l'effondrement des civilisations. Donc, vous avez plusieurs tribus qui se sont formées les unes les autres. Et vous avez une espèce de voyageur qui raconte les histoires. Donc on retrouve un petit peu le thème du troubadour et de la transmission. Et qui va faire la rencontre d'une jeune femme qui est amnésique. Enfin, qui ne parle plus, pardon.
Non, elle est sourde.
C'est ça, qui est sourde. Et ils vont devoir parcourir pas mal de d'endroits, de choses, pour retrouver en fait déjà d'où elle vient. Hein. Et on apprend petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, quelle est sa tribu, qu'est-ce qu'ils protègent exactement, quel est leur secret. Donc on le voit hein, sur la couverture, hein, ça ressemble fortement à une fusée, pour pas dire plus. Et je pense qu'on est toujours pareil dans ces rapports aussi à la nature, à la reconstruction. On a à nouveau hein, ces pages-là hein, qui rappellent fortement Roi Ours. Hein. Je parle plutôt de celle-ci. Hein. Avec les animaux, on voit bien que la Terre s'est repeuplée, elle n'a peut-être pas besoin des humains, en fait, clairement. Et puis surtout, ça fait de nouveau appel à la cruauté de l'humain et de ses croyances. Je crois que c'est beaucoup les croyances aussi qui jouent dans celle-là. Mmh. Et de voir, est-ce que Mars n'a pas été idéalisé aussi, quelque part ? Est-ce que cette tribu qui protège cette fusée, elle s'imagine pas des choses avec le temps qui est passé ? Parce qu'on a ce rapport, en fait, à quelque chose qui est du ressort de la mythologie, en fait, au fur et à mesure. Du savoir qui a été perdu. Et bien sûr, des choses qui vont très vite déraper avec des choses qui vont pas se passer forcément bien pour tout le monde. Hein. Et voilà, donc je ne peux pas trop en dire plus non plus, hein, parce que c'est pareil, c'est du one-shot, et ça n'appelle pas une suite, hein. Enfin, moi personnellement.
Non, là, clairement pas. Ouais.
Hein, donc voilà, je pense que je l'ai assez bien résumé, et on est quand même sur un post-apo doux amer, je dirais.
Ouais, c'est ça, mais c'est pour moi, c'est post-apo, ça fait penser, ça fait survie, ça fait.
Oui.
Et juste après l'apocalypse, et il faut survivre après ça. Ouais. Ça commence à. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, oui, donc la Terre était devenue invivable, mais là, clairement, elle est vivable, en fait. Les choses ont repoussé, et c'est justement parce qu'on n'a plus à survivre qu'on a le temps de un peu rassembler ce qui reste, et donc ce voyageur qui.
La Terre, oui, on voit les. Ouais, on voit les petites traces de Bacadam avec la nature qui a repris ses droits, quoi.
Ça, ouais. Mmh. Et en fait, oui, ça parle de la mémoire, quoi, mémoire collective.
Mais c'est ça qui est terrible, effectivement, dans ce récit, c'est que, comme tu dis, la nature a repris ses droits, les animaux sont revenus, il n'y a plus aucune raison, enfin, l'être humain est peu nombreux, et il n'y a plus aucune raison pour qu'il se déchire ou qu'il cherche à aller ailleurs, enfin, il n'y a plus aucune raison pour quitter la planète. Mais ils sont encore le regard vissé vers Mars en se disant les ancêtres y sont allés, il faut qu'on les rejoigne. On les attend, ils vont venir nous chercher. Et c'est ça qui est ahurissant. Quoi. C'est comme une transposition du culte religieux, mais un peu de manière scientifique, en fait, qui pousse l'homme à se déchirer, à avoir plus qu'il n'a ou ce dont il a besoin.
Ouais, pas se contenter de ce qu'il y a et espérer un truc toujours mieux. Quoi. C'est ça.
Et celui-là, du coup, d'album, il s'est construit comment en termes...
Alors, celui-là, il a démarré techniquement. J'étais au lycée et j'écoutais pas ce que les profs disaient en cours. Et donc, non seulement je dessinais en cours, mais aussi je m'inventais des scénarios dans la tête. Et c'était une histoire que j'avais commencé... C'est même deux histoires qui se sont rejointes. J'avais une trame sur... Donc le voyageur qui récolte les souvenirs après une apocalypse et après qu'il n'y ait plus assez de monde pour se souvenir de tout, parce que pour faire le moindre objet c'est énormément de savoir, personne ne sait faire un iPhone de A à Z, c'est beaucoup de connaissances et à partir du moment où la population est trop réduite, en fait il n'y a pas assez de monde pour tout savoir. Et donc voilà, donc j'imaginais ce personnage qui essayait de sauver ce qui pouvait l'être, tout en sachant qu'il y a certaines technologies qui resteraient des mystères parce que c'est perdu quoi. Et ben, j'avais une autre trame avec une femme sourde. J'ai toujours été fascinée par la langue des signes. Et donc là, la trame, c'était donc le héros qui était fasciné par une jeune femme sourde dans un monde post-apo et qui apprenait la langue des signes juste pour apprendre à la connaître. Parce qu'elle avait l'air bah, muette. Et dès qu'elle rencontrait quelqu'un qui parlait sa langue, bah, elle avait l'air drôle en fait. Elle avait l'air intéressante et drôle. Et lui, il pouvait pas voir ça et il était frustré. Et donc, il apprenait la langue des signes. Puis, il y a un moment, je me suis rendu compte, hey, mais ça pourrait trop coller. J'ai collé les deux ensemble. Et puis. Bon, après, il y a eu beaucoup de boulot pour en faire. Il était dur à écrire celui-là. Oh, ça a été assez simple. À partir du moment où il y a eu l'épiphanie, ça s'est déroulé assez naturellement. Celui-là, non. Celui-là, ça a été un peu ouais, douloureux à
Non, parce
écrire.
qu'il s'est passé combien de temps entre bah, 5 ans, hein, entre Roi-Ours et le culte de Mars?
Oui. J'ai eu du mal à. Ouais. J'ai eu du mal à enchaîner. Ouais. Ça a été un peu long.
Donc ça, c'est des choses qui te sont venues quand tu étais plus jeune à l'école. Alors là, je regarde, il y a une petite question qui est intéressante aussi. Est-ce que c'est volontaire le choix des one-shot? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'imagines faire des séries?
J'aimerais bien faire des séries, mais en fait le format one shot est plus naturel pour moi parce que je sais, c'est une question de structure en fait. Structurer quelque chose en plusieurs tomes et faire que chaque tome soit intéressant. Pour le moment, je ne sais pas trop comment m'y prendre en fait. C'est une question vraiment d'instinct. Ça vient comme ça. Mais j'ai des idées de séries, mais est-ce que je les ferai un jour ou pas? Je sais plus, j'ai trop d'idées de toute façon. J'ai pas le temps de tout faire. Mais ouais. Mais après, le one shot, bon, ça fait beaucoup de pages. Hein. D'un coup, c'est frustrant de tout montrer une fois fini et pas trop d'avoir l'avis des lecteurs en cours de route. C'est ça qui est bien avec une série aussi. C'est de voir vivre pendant qu'on le fait. Là, en l'occurrence, je suis dans mon coin et puis je montre à la fin, quoi. Donc c'est un peu, ouais. C'est un peu solitaire, on va dire.
Après, l'avantage du one shot, c'est que enfin, nous, en tant que lecteurs, on a l'histoire qui est complète
Oui. Oui.
et on s'éclate avec, quoi. Après, c'est à
Oui.
nous d'imaginer la suite si on le souhaite, quoi.
C'est ça.
Moi, je pense que, petit Jean, t'es pareil que moi, les fins ouvertes, ça fait partie des kiffs total, quoi. Tu peux te
Oui,
poser les questions
complètement.
que tu as
Alors,
envie, quoi. Pas tout le
non, mais
temps, hein.
ça dépend sur
Ouais.
le type de récit. Effectivement, il y a des fois l'histoire,
On
la
s'y
fin
prête, ouais.
ouverte s'y prête très bien. Il n'y a pas besoin d'en raconter plus ni d'aller plus loin. C'est le cas avec le roi ours. Le culte de Mars, la fin est un peu plus, je vais pas dire fermée, mais effectivement, là, on sent que se termine quelque chose. Pareil, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'en raconter plus. Et c'est vrai que beaucoup, de plus en plus d'amateurs de BD apprécient soit les séries courtes en 2-3 tomes, dès que c'est annoncé que ça va être terminé en un nombre de tomes déterminé, ou que c'est une histoire unique aussi. Et le fait de savoir où on va en tant que lecteur, parce que il y a le côté industrie BD qui fait que des fois, certains ont assez des séries qui se talent sur des 10, 20 tomes, avec des
Oui.
spin-offs, des préquels, des séquelles. Enfin,
Sur 30 ans
sur
aussi.
30 ans, oui, c'est.
Mais moi j'aime bien les fins ouvertes de toute façon parce que je trouve que terminer une histoire par il est heureux, il eurent plein d'enfants, fin, c'est dire il ne leur arrivera plus jamais rien d'intéressant. Et je trouve ça affreux. J'ai envie qu'on ait au moins le sentiment que la vie continue après en fait. C'est juste que ça ne nous regarde plus. Et Culte de Mars, c'est plus fermé parce que mais les dernières pages, voilà, le voyage continue pour ceux qui voyageaient.
Ce que j'allais dire,
La vie continue, oui.
on peut tout à fait imaginer des histoires en parallèle dans
Ouais,
ce
puis
monde-là avec d'autres tribus.
le personnage principal, il est couvert de cicatrices. Il en a eu plein des histoires avant, il en aura plein après. C'en était juste une.
Mais ça rend vraiment le récit plus adulte, en fait, je pense. Le fait de dire, ben voilà, il faut savoir se quitter, en terminer là, et puis passer à autre chose, un autre récit, une autre histoire.
Moi, j'adore quand une histoire me hante après que je l'ai terminée. Après avoir regardé un film ou une série, où après je suis là dans mon lit en train de me dire ah mais du coup ça veut dire ça. Ah. Et moi je trouve ça génial d'y repenser après, parce que si tout est répondu et qu'on peut juste passer à autre chose, bah moi j'aime bien faire durer le plaisir.
D'accord. Et justement, tu as des choses qui viennent en tête, qui t'ont marqué ou hanté ou qui t'ont influencé pour...
Alors, influencer, c'est dur à dire parce que moi, je me laisse influencer partout. L'influence, elle est vraiment absolument partout. Il faut vraiment juste laisser les oreilles et les yeux ouverts et prendre vraiment dans n'importe quoi. Que ce soit un cadrage, un thème, une réplique, vraiment, ça peut surgir de n'importe où.
Une conversation, par exemple.
Exactement, une conversation. Oui, une balade, ouais, un paysage, n'importe quoi. Et son histoire, c'est un amoncellement de toutes ces petites, toutes ces petites influences qu'on a trouvées, qu'on a cousues ensemble pour enrichir le truc. J'ai oublié la question.
Ce qui avait pu t'influencer au moins,
oui.
Ah oui, inciter à raconter tes histoires de cette manière.
Ah oui. Non, c'est juste. Je suis très instinctive, j'ai beaucoup de mal à théoriser les choses que je fais. Parfois, il y a des choses, j'ai du mal à en parler, parce que je le fais, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et un truc qui est super intéressant, c'est de lire les critiques de l'album, une fois que l'album est paru. J'en apprends plein sur ce que j'ai fait. Parce que les gens vont raconter des choses avec leurs mots. Et des fois c'est super intéressant, des fois ils ont vu des trucs que j'ai pas vu, des fois ils ont des formulations pour parler de l'histoire que je trouve géniale. Pour Au culte de Mars, j'ai lu une critique, un mec qui disait que c'était un road trip champêtre. J'ai trouvé ça.
Oui,
c'est mignon. Oui.
Ouais, c'est mignon. Et des thèmes parfois qui sont...
Ah, ça rejoint ça, hein. Franchement.
Exactement, road trip champêtre, ouais, hein. Moi c'est cette image là.
Ah, oui. Ouais, il y a un petit côté de Last of Us, mais...
En plus,
ouais. Ah ouais. Ah bah, de Last of Us, grosse influence, par exemple, ouais, pour le culte de Mars. Ça, alors, jeu vidéo, quand je veux m'immerger dans une ambiance, je joue à un jeu vidéo sur le thème, et c'est trop bien. Pour Roi Ours, pas trop. À part Roi Ours, bah, pour petite immersion, la musique peut être très importante. Donc Roi Ours, j'ai beaucoup écouté les musiques de Princesse Mononoké. Je m'étais fait une playlist de musique qui m'évoque certaines scènes. Quoi. Ouais, et pour le culte de Mars, la BO de The Last of Us, j'ai joué à The Last of Us, j'ai écouté la BO. J'ai regardé d'autres films post-apo, mais ouais, The Last of Us, grosse inspiration.
Donc du coup, tu joues à quel jeu vidéo en ce moment?
Alors, là, j'ai terminé The Long Dark. J'ai terminé le mode histoire. Et mon prochain, je pense que ce sera BioShock, que je ne connais pas encore.
Ah oui, c'est amusant parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, pour justement combler une grosse lacune. Je ne l'avais pas joué non plus.
BioShock, ouais. Et c'est pour rattraper, mais je suis en retard surtout.
Bon, il n'y a pas vraiment de retard, on les fait comme on peut. Moi, je suis sur Fallen Order, donc bon, voilà. On fait au fur et à mesure. Non, c'est juste en fait pour savoir le thème de la prochaine BD, du coup.
Ouais, c'est ça.
Alors, oui, alors. Thème de la prochaine BD, alors énorme influence, j'ai joué à The Outer Wilds.
Ah oui,
j'ai
d'accord.
Ok,
voilà, jeu formidable, tout le monde doit y jouer, c'était incroyable. Et je n'en dirai rien, évidemment. J'ai joué à No Man's Sky aussi.
Ouais. C'est de l'exploration spatiale, en fait.
Oui, exploration spatiale, ouais. On est dans l'exploration spatiale, tout à fait. No Man's Sky, oui, mais j'adore parce que...
C'est sans limite, c'est tellement vaste.
Ouais. Et le jeu vidéo, je trouve que c'est le média qui fait ressentir le plus fort les émotions. Parce qu'on a la manette en main et qu'on est en train... C'est nous, c'est les conséquences de ce qu'on a fait. Même si le truc est linéaire et tout, c'est... Avoir fait bouger le personnage du point A au point B, c'est pas du tout pareil que l'avoir regardé faire.
J'avoue que c'est spécial. Moi, j'ai le souvenir de Journée, hein, qui m'a profondément touché, alors que c'est un jeu vidéo, quoi, et qui est scripté à mort, quoi. Mais
c'est incroyable. Mais
non, à la fin, on chiale, quoi. C'est terrible.
Oui. C'est obligé. Mais oui, Outer Worlds, c'était fou. Mais ce qui est bien pour la documentation, du coup, on peut y aller prendre des photos, quoi. No Man's Sky, je sais que j'y retournerai parce que bah, j'aurais besoin d'une planète un peu rocailleuse, et puis je vais aller me balader dans l'univers, et là-bas, une planète rocailleuse, puis là, je prends des photos, quoi. Prendre les cailloux, le ciel, quand il fait nuit, quand il fait jour, c'est trop bien.
Donc, le voilà. Tourisme vidéoludique, c'est pas mal.
Totalement,
ça.
Du tourisme. Mon copain est coloriste, et il fait ça aussi.
Ouais.
Il a fait un western. Il allait se balader dans Red Dead Redemption.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Ouais.
Genre pour certaines scènes, il nous regarde. Coucou. Hugo Pupelin. Il a travaillé sur Le Révérend. Le western dont je parle, c'est Le Révérend. Chez Paquet. Et ouais, pour certaines scènes, il y a une ambiance qu'il a en tête. Là, il allume la console, il va à un point précis et il attend que ce soit la bonne heure de la journée pour regarder le paysage, quoi.
D'accord.
Ouais, je sais pas si ça te fait, toi, des fois, petit Jean, mais moi, ça m'arrive, hein, c'est con, mais t'es en train de jouer un jeu, puis t'as un paysage avec une profondeur de champ, bah, tu t'arrêtes, tu fais juste tourner la caméra.
Mais complètement, mais c'est de plus en plus avec les cartes graphiques, les moteurs graphiques qui sont de plus en plus performants, qui proposent des ambiances. Oui, non, mais ça arrive aussi. Vraiment, pour l'univers ou l'environnement, ouais, c'est...
Puis alors, bah, pour nous qui faisons du jeu de rôle, c'est la double dose, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux faire de capture d'écran pour tes décors dans tes parties, quoi. Bah oui.
C'est vrai, ça.
Quand tu veux montrer à un moment donné un endroit ou un personnage qui est dans un univers type, tac, tu te fais comme tu dis, hein, tu prends tes petites photos, ouais. Et puis bah, ouais, c'est là qu'on est. Voilà. C'est très très pratique.
Ouais, parce que faire les voyages en vrai juste pour amener quelques photos pour certains, c'est un budget quand même.
Ouais,
c'est vrai que c'est toujours plus plaisant de se balader dans la nature. Alors, on n'en a pas parlé, mais effectivement, tu as fait une petite incursion également dans la série BD Les Géants.
Ouais.
Et là, tu vas peut-être pouvoir nous en parler parce que du coup, tu as collaboré avec coloriste et scénariste.
C'est la première fois que je laisse un coloriste toucher à mes dessins.
Ça va, tu t'en es remise.
Mais en fait, ça s'est très bien passé. Ça a été intéressant parce qu'il a fallu que j'apprenne à laisser faire, quoi. Mais le fait de vivre avec un coloriste m'a beaucoup aidé parce que du coup, je vois ce côté-là du métier. Lui, il me parle des relations avec les dessinateurs, avec les scénaristes. Donc, des fois, il y a des histoires. Disons que j'ai pas voulu être une mauvaise expérience. Je vois comment ça peut être désagréable de travailler sur le dessin de quelqu'un, et surtout de travailler sur le dessin de quelqu'un qui a l'habitude de faire ses couleurs. Parce que du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui est par-dessus ton épaule en train de te dire « moi, j'aurais pas fait comme ça ». Et bon, et je voulais absolument pas être comme ça. Donc j'ai dû prendre sur moi, parce que évidemment, même si c'est joli, j'aurais pas fait comme ça. Et c'est frustrant. Mais il faut se taire, il faut laisser faire les gens.
D'accord. Mais du coup, ça t'a, entre guillemets, imposé le fait de devoir travailler avec... D'ailleurs, c'est une coloriste ou un coloriste ?
Un coloriste, Lauriane Horaire. Oui, parce qu'en fait, toute la série était... Donc, c'est un dessinateur différent à chaque album. Mais c'est le même scénariste pour toute la série et le même coloriste. Et le même storyboarder. Et là, ça a été compliqué, le même storyboarder, parce que faire de la BD, si on enlève le storyboard... Voilà, bon, bref. Donc ouais, là, laisser la place au storyboarder, ça a été un peu difficile, parce que c'est un peu ma partie préférée.
Le storyboarder, c'est celui qui conçoit la façon dont les planches sont...
C'est ça, la taille des cases et les cadrages et ce qui se passe dans les cases. C'était pas prévu quand j'ai signé le contrat. Par contre, bon, le coloriste était prévu et mais je pensais que ça se passerait. Ouais, je pensais que j'aurais plus de mal avec le coloriste, mais en fait, oui, ça va. Mais par contre, oui, j'ai appris à communiquer, quoi. Parce que quand je dessine, moi, je pense à mes couleurs. Je prévois à l'avance, enfin, dans ma tête, la lumière va venir de là, la couleur sera comme ça, etc. Et on a fait une page test pour le dossier. Donc je fais ma page, je la dessine, je l'envoie au coloriste. Et j'ai pas pensé qu'il ne lisait pas dans les pensées. Du coup, il m'a envoyé le résultat et j'étais un peu... Ça m'a fait bizarre de me dire qu'en fait, il y avait d'autres solutions que la mienne. Et du coup, je savais pas quoi en penser. Donc, je suis allée montrer à mon copain, t'en penses quoi? Et il me dit, ah, c'est super joli. Et je dis, ah mince, c'est joli. C'est juste moi, alors c'est juste que je ne m'y attendais pas à ces couleurs-là et à cette ambiance-là. Du coup, ok. Bon, bah. Et du coup, j'ai dû m'y faire. Mais par contre, par la suite, quand j'avais une idée de lumière ou j'avais des, enfin, je donnais des indications, je lui disais, là, je vois ça comme ça. Et du coup, il suivait, parce que si je lui dis rien, évidemment, il fait ce qu'il veut.
Oui, mais il met son travail à lui, quoi, du coup, son inspiration.
Oui, mais oui.
Et oui. Et donc ça, c'est le dernier qui est sorti, hein, c'est ça.
Oui.
L'an dernier, je crois. Hein,
ouais,
je
vois.
22. Ouais.
Alors moi, je vois un 6, qui, en fait, ouais, c'était le numéro 5, Luyana, et je vois un numéro 6, en fait, Yato.
C'est ça, j'ai fait le numéro 5 et le 6 après, je ne suis plus concernée par la suite.
D'accord.
Ouais, je crois que c'est un ou deux par an, je crois, de mémoire.
Ouais, c'était deux par an. Ouais. C'est un peu pour ça qu'il y a deux dessinateurs, enfin, un dessinateur différent à chaque fois, c'est pour...
Pour tenir le rythme du scénario, ouais, bah oui. Et est-ce que dans ta façon de concevoir les histoires, les thèmes que tu vas aborder et autres, est-ce que tu te poses la question du public auquel tu t'adresses ou pas du tout? Plutôt jeunesse, plutôt adulte ou autre?
On est un peu obligé parce que l'éditeur il va poser la question. Mais clairement, j'écris pour moi, j'écris les BD que j'aimerais lire.
D'accord.
Et je m'embarrasse pas trop de ça. Disons que ça ne guide pas ce que j'écris. J'écris, d'accord. Après je constate ce qui s'est passé et c'est rarement pour les enfants.
Ça se voit juste à peine. Parce que Roi Ours et le culte de Mars, oui, quand même. Quoique Roi Ours, même si c'est cruel, c'est quand même des... Bah, si on se souvient de ce qu'on apprend quand on est à l'école, les fables de La Fontaine, d'Ésope et autres, c'est pas... ou les contes de Perron, c'est pas particulièrement tout le temps joyeux, quoi. On a l'imagerie Disney, mais les vrais contes, ils sont super cruels, quoi, en fait.
Oui, c'est vrai. Mais alors, le Roi Ours, c'est surtout qu'il y a une scène de sexe. Que... Voilà. Et c'est surtout ça.
Ouais.
Mais après, enfin, ça, c'est très, enfin, ça fait très public jeune adulte quand même. C'est sur des récits qui peuvent après amener sur quelque chose de plus
ado adulte quoi. Sur quand je dois communiquer avec l'éditeur, c'est ça que je dis.
Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses que nous on ne connaît pas dans les rapports avec les éditeurs. Ils ont des desiderata, des choses qu'ils imposent pour publier.
Alors qu'ils imposent. Non, on ne m'a jamais rien imposé. Enfin, c'est toujours en discussion, en fait. C'est toujours pour que l'album fonctionne le mieux possible une fois qu'il est sorti. Donc, il faut que le libraire puisse le ranger dans une case. Donc, il faut quand même qu'il soit défini. Il y a plein de contraintes, en fait. Parce qu'après, il va passer de la librairie aux gens qui aimeraient l'acheter. Donc, tout ça, c'est... J'y pense pas quand je fais l'histoire parce que, ben, clairement, si je pense au lecteur, je fais plus rien. Ça m'a un peu coincé pour enchaîner après Roi Ours parce que les gens avaient aimé Roi Ours et du coup, Roi Ours, j'imaginais personne. Je faisais le truc pour moi et je m'éclatais. Et puis quand le truc est sorti, j'étais un peu surprise de me rendre compte que, ben oui, en fait, c'était vraiment pour de vrai et qu'il y avait vraiment un livre et que les gens l'achetaient vraiment. Et du coup, après, ouais, je pensais un peu trop à ce que les gens auraient envie de lire après Roi Ours, et ça m'a pas aidé à écrire. Donc, il a fallu que j'oublie mes lecteurs et que je me fasse plaisir à moi, en espérant que ça leur fasse plaisir à eux, mais après, quoi.
Donc, c'est ce qui t'a débloqué pour le culte de Mars, du coup, c'est ça?
Ouais. De réussir à passer en mode égoïste.
Mais ça marche, hein.
Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Et le prochain, alors, il est en cours, il est fini quoi.
Il est en cours. Il est en cours. Je travaille sur le storyboard, le découpage. Je suis en train de terminer le storyboard. Ça va faire 130 pages environ.
Toujours chez Delcourt
Non, pas chez Delcourt. Chez Rue de Sèvres.
Oui. Belles éditions.
Ouais. Mais bon, pour le moment... Pour le moment, tout se passe bien, mais bon, c'est que le début, général, ça se passe bien. Mais il y a un moment où je vais en avoir marre, je le sais. Hein. Jusqu'ici, j'en ai toujours eu marre à un moment. J'ai toujours déclaré que j'arrêtais la BD pour toujours. Il y a un moment où je pète un câble. C'est pour après, ça.
D'accord. Bon, ben, on espère que oui, c'est sérieux. Cette fois, le récit est finalisé, tu sais où tu vas, ou il y a encore une difficulté à...
Oui, mais il y a toujours des difficultés, mais c'est... faire une BD, c'est résoudre une somme de problèmes les uns après les autres. Et ouais, chaque problème à la fois. Là, voilà, le découpage, c'est qu'est-ce qui se passe page par page, case par case, mais il reste plein de problèmes de dialogue, des problèmes de design. J'ai pas tout designé, parce qu'il y a des fois, il faut inventer tous les objets. C'est un truc, c'est une histoire qui se passe dans l'espace.
Putain, ça alors.
Il va falloir inventer des planètes, des aliens, des vaisseaux, des combinaisons. Donc c'est ouais, donc aller s'aérer la tête dans des jeux vidéo, c'est très bien, parce que du coup j'emmagasine un peu des trucs et puis ça nourrit quoi. Mais oui, il manque plein de choses très floues, mais ça je défloute au fur et à mesure.
Ce okay. sera toujours du one shot du coup.
Oui. Et donc celui-là, je m'étais dit je voulais faire un diptyque et j'ai raté.
Comment ça? Comment ça tu as raté?
La même histoire de deux points de vue différents.
Non, je voulais faire. Je voulais faire. Déjà, je voulais pas faire trop de pages. J'ai raté. Ça fait 130. Mais les deux premiers albums, ils font 110 et 100, je crois. Et j'ai dit, je voulais faire moins et j'ai trop de trucs à dire. C'est comme ça. Des fois, il faut obéir à l'histoire et c'est l'histoire qui commande. Donc, ok, 130 pages. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais couper en deux. Et en fait, non, j'ai pas envie. En fait, offrir un truc tout d'un bloc avec l'histoire entière et être sûr que il n'y aura pas quelqu'un qui a acheté le premier et qui lira jamais le deuxième. Voilà.
C'est le moyen que tu offres ton histoire en un bloc comme toi tu l'imaginais, quoi.
Oui. Ah ouais, parce que j'étais pas. Parce que on peut pas juste couper une histoire en deux et espérer que ça fasse deux histoires, quoi. C'est pas comme un verre qu'on coupe en deux, ça fait deux verres. Là, ça fait juste une histoire coupée en deux, même. Et une histoire, c'est une structure avec une ouverture, un déroulement, un climax. On coupe le truc en deux, ça fait juste une structure coupée en deux, en fait, et ça marche pas forcément. Et j'ai pas réussi à faire deux trucs.
D'accord.
Ok, on verra ça. La sortie est prévue pour quand?
Ouais, ce que je veux dire.
On va un peu loin là. Ouais. Je pense que c'est un peu présomptueux de.
On verra, vous verrez bien. Mais pas tout de suite, patience. Je suis pas une rapide. Okay.
Pas de souci.
C'est bien, ça permet d'avoir des. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, du coup, on a beaucoup parlé de Roi Ours et du Culte de Mars, mais c'est du one shot hyper. Enfin, c'est plus que hyper efficace, c'est que c'est des belles histoires. C'est surtout ça. Enfin, le dessin est beau, l'éclairage, les couleurs, tout ça, ça va avec, hein, ça fait l'ensemble. Mais c'est les histoires, elles sont très parlantes, quoi. C'est des thèmes qu'on a déjà un peu abordés, mais qui sont toujours là, qui sont universels, en fait. Hein, des histoires de vengeance, de compréhension, de partage, de communication. Donc, est-ce que c'est des choses que tu as voulu justement, que tu as imaginé, toutes ces thématiques, déjà en amont, ou est-ce que c'est venu aussi de tes réflexions?
C'est venu comme ça.
Ouais.
Et je te disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui voient des choses que je n'avais pas remarquées, et là, ça m'a encore fait. Je suis tombée sur une critique du Culte de Mars. Et je pense que c'est le mec qui parlait de road trip champêtre. Je me demande si c'était pas lui. Eh bien, lui. Il avait lu Roi Ours avant et il a écrit un truc du genre elle a l'air d'avoir quelque chose avec les problèmes de communication. Et j'étais en train d'écrire le scénario de mon troisième et j'étais putain, j'avais pas vu ça, mais complètement.
Oui, oui.
A l'air d'être un film pour moi et je n'étais pas au courant. Du coup, j'ai commencé à réfléchir un peu à pourquoi.
Dans ce futur album, c'est quelque chose qui va également se retrouver. Et,
mais encore pire que les deux précédents. Ouais. Et oui. En fait, on fait notre psychanalyse hein, quand on fait ça.
Ça coûte moins cher écrire des histoires, oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Des fois, je me dis, quand on fait des parties de jeu de rôle, c'est presque ça aussi. Hein.
Ouais, bah, écrire, de toute façon, raconter des histoires, vu qu'on ne fait que raconter des choses qu'on connaît, on met notre vécu, même si ça se passe dans l'espace, même si ça se passe après une apocalypse, en fait. tous mes personnages, je considère que c'est pour ça qu'il n'y a pas de gentil, pas de méchant, tout est toute une nuance de vie. Pour moi, c'est moi si j'avais vécu leur vie. Il faut que tous mes personnages, en fait, je les comprends. Même ceux qui ont tort. C'est juste qu'ils ont eu un chemin de vie qu'ils ont amené à faire ce qu'ils font. Mais en fait, de leur point de vue, ils ont raison. Je ne peux pas écrire un méchant qui est méchant parce qu'il est méchant. Je voudrais vraiment pas faire.
Ouais, ça, c'est c'est les James Bond. Mais ça a tendance à s'estomper quand même, dans les films, les séries et autres. Effectivement, on voit de plus en plus des choses en nuances de gris. Parce que peut-être que c'est plus intéressant, tout simplement, quoi. Et alors ça, j'ai une petite question, c'est vrai qu'on l'a pas posée, c'est pourquoi Moby Dick?
Moby Dick.
Oui.
c'est un surnom familial, c'est mes petites sœurs qui m'appellent comme ça depuis qu'on est petite. Et ouais, je l'ai gardé parce que au moment de faire, quand j'étais à Saint-Luc, j'ai fait un blog BD comme beaucoup de mes congénères. Il fallait prendre un pseudo. J'aurais pu prendre mon vrai nom, mais sur Internet, j'aimais bien les pseudos parce que c'était une époque où je jouais beaucoup. J'aimais bien Dofus. Donc dans le MMORPG, bah on a tous un pseudo et personne ne va prendre son. Enfin si, ça doit arriver, hein, mais c'est bizarre de prendre son prénom de famille. Donc j'étais un peu déjà dans cet esprit personnage, jeu plus Internet, donc le pseudo, ça m'a semblé évident. Et au moment de faire Roi Ours, vraiment pendant toute la durée de l'album, je ne savais pas ce que j'allais faire. Est-ce que je gardais mon nom ou pas? Et puis en fait, je trouvais ça plus fun de choisir moi-même plutôt que de prendre celui que mes parents choisissent pour moi.
Ok.
Alors, en l'occurrence, c'est mes sœurs, pas moi.
Et pourquoi Moby Dick du coup? On peut leur poser la question.
J'ai pas envie de répondre.
Ok.
Parfois je réponds, parfois je réponds pas. Mais oui, c'est ma petite sœur. C'est un jeu de mots.
Ça marche.
Et en attendant donc la sortie, on te croise. Bon, moi je t'avais croisé donc à Trolls et Légendes. Tu fais souvent des festivals BD ou autre?
Ben, pas très régulièrement. Après, ouais, une sortie d'album, beaucoup. Et puis après, moi. Et là, je vais plus trop sortir. Je vais plus trop faire ça. Pendant les prochaines années, ouais.
Ok, donc on a eu du bol, quoi.
Ouais, complètement. Ouais, parce que normalement, maintenant, je refuse un peu tout. Là, en l'occurrence, l'organisatrice de Trolls et Légendes, j'arrive pas à lui dire non.
Faut dire que c'est un super festival, hein. J'avoue, je connaissais pas. Que du bonheur.
Ouais, hein. Ouais, c'était bien.
Donc peut-être l'année prochaine, si elle est encore très persuasive.
je choisis mes occasions, évidemment. Après une sortie d'album, forcément, je dis un peu oui à tout parce que voilà, c'est le moment de faire la promo du bouquin. Mais sinon, il y a des festivals que j'adore et que dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais, quoi.
C'est lesquels? Comme ça, nous, on peut prendre les petites notes pour plus tard.
Moi, j'adore le festival de Tours, qui est très très bien. La Tour de Bulle,
ouais.
Festival d'Amiens est génial.
Je note.
Ouais. Voilà. Pareil, c'est fait.
Ouais. Mais non, je connaissais pas le festival de Tours, je connaissais celui d'Angers. Oui. Mais
Ouais, okay. Vous êtes arrêté à Tours?
Non.
Ça, c'est un petit... Ah non, ok. C'est un petit festival, mais les gens sont chouettes, je suis trop bien reçue. Donc, voilà. Et Amiens, du coup, en tant que visiteur, je sais pas, parce que je fais jamais de festival en tant que visiteuse, mais je crois que celui d'Amiens, il est génial en tant que visiteur. Et Saint-Malo aussi, évidemment.
Ah bah quel début, ouais, c'est... Mmh. J'ai le cadre.
Ouais.
Ça peut aider. Donc là, au niveau projet, donc c'est juste travailler sur ta future BD. T'as rien d'autre prévu d'ici là?
Pas en bouquin, mais j'ai l'intention de me prendre des petites récréations dans Spirou, faire des petites histoires courtes.
D'accord.
J'en ai déjà fait 3. Donc là, pour le coup, j'écris pas. Justement, donc, c'est en mode récréé. Donc j'ai un ami, Augustin Lebon, le dessinateur du Révérend, qui a mis en couleur donc il écrit aussi, et il m'a déjà écrit plusieurs histoires courtes, et c'est très cool à faire. Donc,
pour le journal de Spirou, quoi.
Ouais, ça m'aidera à devenir dingue. et toute seule en boucle sur ma BD. Ouais.
Et puis, bah, écoute, nous, comme on le disait bah, avant de commencer l'émission, on aura deux. Alors, je parle pour un dessin podcast, on aura deux émissions qui arriveront bah, justement pour Roi Ours et pour Le Culte de Mars, pour voir comment éventuellement on peut adapter ça en jeu de rôle.
Voilà. Trop bien.
Donc, ça, bon, j'espère que ce sera à la hauteur de, de ce que j'ai dit, mais en gros, c'est des émissions qui feront 15 minutes, 15-20 minutes, pas plus, quoi. Hein. C'est quand même assez ramassé. Donc, je pense qu'on se dit. Enfin, à moins que tu aies d'autres questions, petit Jean.
Non, je pense qu'on a.
Ouais, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Enfin, j'espère. Mm-hmm. Ouais, j'étais en train de regarder au fur et à mesure. J'ai mis toutes les questions qui sont arrivées, je les ai mises au fur et à mesure. Hein.
Cool, parfait.
On se dirige donc vers le mot que le collègue Antoine, qui n'est pas là ce soir, déteste, c'est-à-dire celui-ci, le mot de la fin. Donc, à nouveau, on te remercie énormément d'avoir accepté cette. Ce temps que tu nous as consacré pour discuter de tes œuvres, quoi.
Un grand plaisir. C'est passé vite, hein.
Oui,
ouais, rien. Plus d'une heure vingt déjà. Moi, je ne peux pas le temps passer, hein, comme d'habitude. Ça va, j'ai réussi à parler finalement. Le track est parti, donc ça, c'est pas mal. Ça va. Merci aussi, petit Jean, d'être venu aussi.
Mais merci à toi. Merci à toi, Moby Dick aussi.
Ben, merci à tous les deux.
Alors, je vois juste si on suit avec un sorti, il reste un an. Une BD tous les deux ans. Ouais.
Ça a l'air un peu optimiste. Peu plus...
Et bien écoute, voilà, je vais mettre tout ce qu'il faut pour le petit écran de fin. Que voici, que voilà. Et puis, ben, alors nous, pour un dessin podcast, on vous dit à demain 21h pour notre live hebdomadaire. Pour Guy Poa, c'est ce soir à 21h.
Avec les grogues d'or.
Bah ben ouais, la récompense des jeux de rôle qui déchirent de l'année, quoi.
Voilà.
Et pour Moby Dick, bah, si on ne te voit pas en festival, du coup, on t'enverra des petits messages par Instagram. Hein,
pour voir oui, voilà. J'arrête de poster au fur et à mesure sur Instagram, montrer un petit peu les coulisses du truc. Là, ce n'est pas très intéressant parce que je fais le storyboard, vraiment. Vous voulez pas voir ça. Non. Personne ne veut voir ça.
Mais j'ai déjà vu un atelier BD. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, dans la construction du série. Parce que ça colle avec l'histoire, quoi.
Ouais. Mais j'essaierai de faire un peu une story pour parler de ça. Ouais. Et dès qu'il y aura des images un peu jolies, je montrerai.
Ouais. Ouais. J'ai mis les liens de toute façon tout à l'heure, et puis je les mettrai dans la description une fois que la vidéo sera passée vers ta page Insta, comme ça au moins.
Cool.
Les gens pourront y aller. Quoi. Puis, donc, bah, à
nouveau. Moi, je veux bien voir des petits tutos de comment on fait nos roseaux et comment on fait avec du brou de noix et du.
Ouais.
Ça, c'est d'être.
Sur ma page Insta, je les ai mis en story permanente.
Mm-hmm. Ça doit être intéressant, ça.
Eh bien, à nouveau, merci. Et puis, on vous fait des bisous à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Salut.
Salut.
Salut.